Lettre 38, Rika à Ibn, à Smyrne. C'est une grande question parmi les hommes de savoir s'il est plus avantageux d'ôter aux femmes la liberté que de la leur laisser. Il me semble qu'il y a bien des raisons pour et contre. Si les Européens disent qu'il n'y a pas de générosité à rendre malheureuses les personnes que l'on aime, nos Asiatiques répondent qu'il y a de la bassesse aux hommes de renoncer à l'empire que la nature leur a donné sur les femmes. Si on leur dit que le grand nombre de femmes enfermées est embarrassant, ils répondent que 10 femmes qui obéissent embarrassent moins qu'une qui n'obéit pas. Que s'ils objectent à leur tour que les Européens ne sauraient être heureux avec des femmes qui ne leur sont pas fidèles, on leur répond que cette fidélité, qu'ils vantent tant, n'empêche point le dégoût qui suit toujours les passions satisfaites. Que nos femmes sont trop à nous, qu'une possession si tranquille ne nous laisse rien à désirer ni à craindre, qu'un peu de coquetterie est un sel qui pique et prévient la corruption. Peut-être qu'un homme plus sage que moi serait embarrassé de décider. Car si les Asiatiques font fort bien de chercher des moyens propres à calmer leurs inquiétudes, les Européens font fort bien aussi de n'en point avoir. « Après tout, disent-ils, quand nous serions malheureux en qualité de mari, nous trouverions toujours moyen de nous dédommager en qualité d'amant. Pour qu'un homme puisse se plaindre avec raison de l'infidélité de sa femme, il faudrait qu'il n'y eût que 3 personnes dans le monde. » Ils seront toujours à but quand il y en aura 4. C'est une autre question de savoir si la loi naturelle soumet les femmes aux hommes. « Non, me disait l'autre jour un philosophe très galant, la nature n'a jamais dicté une telle loi. L'empire que nous avons sur elle est une véritable tyrannie. Elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles ont plus de douceur que nous, et par conséquent, plus d'humanité et de raison. » Ces avantages, qui devaient sans doute leur donner la supériorité, si nous avions été raisonnables, la leur ont fait perdre, parce que nous ne le sommes point. Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ont sur nous un empire naturel, celui de la beauté, à qui rien ne résiste. Le nôtre n'est pas de tous les pays, mais celui de la beauté est universel. Pourquoi aurions-nous donc un privilège? Est-ce parce que nous sommes les plus forts? Mais c'est une véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Les forces seraient égales si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les dans les talents que l'éducation n'a point affaiblis, et nous verrons si nous sommes si forts. Il faut l'avouer, quoique cela choque nos mœurs chez les peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'autorité sur leur mari. Elle fut établie par une loi chez les Égyptiens, en l'honneur d'Isis, et chez les Babyloniens, en l'honneur de Sémiramis. On disait des Romains qu'ils commandaient à toutes les nations, mais qu'ils obéissaient à leurs femmes. Je ne parle point des Sauromates, qui étaient véritablement dans la servitude de ce sexe. Ils étaient trop barbares pour que leur exemple puisse être cité. Tu vois, mon cher Ibn, que j'ai pris le goût de ce pays ici, où l'on aime à soutenir des opinions extraordinaires et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé la question et a réglé les droits de l'un et de l'autre sexe. Les femmes, dit-il, doivent honorer leurs maris. Leurs maris les doivent honorer. Mais ils ont l'avantage d'un degré sur elles. À Paris, le 26 de la lune de Gemadi, 1713. Lettre 39. Hagi Ibi au juif Ben Josué, prosélyte mahométan, à Smyrne. Il me semble, Ben Josué, qu'il y a toujours des signes éclatants qui préparent à la naissance des hommes extraordinaires, comme si la nature souffrait une espèce de crise et que la puissance céleste ne produisit qu'avec effort. Il n'y a rien de si merveilleux que la naissance de Mahomet. Dieu qui, par les décrets de sa providence, avait résolu, dès le commencement, d'envoyer aux hommes ce grand prophète pour enchaîner Satan, créa une lumière 2000 ans avant Adam, qui, passant d'élu en élu, d'ancêtre en ancêtre de Mahomet, parvint enfin jusque à lui comme un témoignage authentique qu'il était descendu des patriarches. Ce fut aussi à cause de ce même prophète que Dieu ne voulut pas qu'aucun enfant fût conçu, que la femme ne cessât d'être immonde, et que l'homme ne fût livré à la circoncision. Il vint au monde circoncis, et la joie parut sur son visage dès sa naissance. La terre trembla 3 fois, comme si elle eût enfanté elle-même. Toutes les idoles se prosternèrent, les trônes des rois furent renversés, Lucifer fut jeté au fond de la mer, et ce ne fut qu'après avoir nagé pendant 40 jours qu'il sortit de l'abîme et s'enfuit sur le mont Cabès, d'où, avec une voix terrible, il appela les anges. Cette nuit, Dieu posa un terme entre l'homme et la femme, qu'aucun d'eux ne put passer. L'art des magiciens et nécromants se trouva sans vertu. On entendit une voix du ciel qui disait ces paroles « J'ai envoyé au monde mon ami fidèle ». Selon le témoignage d'Isben Aben, historien arabe, les générations des oiseaux, des nuées, des vents et tous les escadrons des anges se réunirent pour élever cet enfant et se disputèrent cet avantage. Les oiseaux disaient dans leur gazouillement qu'il était plus commode qu'ils l'élevassent parce qu'ils pouvaient plus facilement rassembler plusieurs fruits de divers lieux. Les vents murmuraient et disaient « C'est plutôt à nous, parce que nous pouvons lui apporter de tous les endroits les odeurs les plus agréables. » « Non, non, disaient les nuées, non, c'est à nos soins qu'il sera confié, parce que nous lui ferons part à tous les instants de la fraîcheur des eaux. » Là-dessus, les anges, indignés, s'écriaient « Que nous restera-t-il donc à faire ?» Mais une voix du ciel fut entendue, qui termina toutes les disputes. « Et il ne sera point ôté d'entre les mains des mortels, parce qu'heureuses les mamelles qui l'allaiteront, et les mains qui le toucheront, et la maison qu'il habitera, et le lit où il reposera. » Après tant de témoignages si éclatants, mon cher Josué, il faut avoir un cœur de fer pour ne pas croire sa sainte loi. Que pouvait faire davantage le ciel pour autoriser sa mission divine, à moins de renverser la nature et de faire périr les hommes même qu'il voulait convaincre? À Paris, le 20 de la lune de Régeb, 1713. Lettre 40. Usbek à Ibn, à Smyrne. Dès qu'un grand est mort, on s'assemble dans une mosquée et l'on fait son oraison funèbre, qui est un discours à sa louange avec lequel on serait bien embarrassé de décider au juste du mérite du défunt. Je voudrais bannir les pompes funèbres. Il faut pleurer les hommes à leur naissance et non pas à leur mort. À quoi servent les cérémonies et tout l'attirail lugubre qu'on fait paraître à un mourant dans ses derniers moments? Les larmes même de sa famille et la douleur de ses amis, qu'à lui exagérer la perte qu'il va faire? Nous sommes si aveugles que nous ne savons quand nous devons nous affliger ou nous réjouir. Nous n'avons presque jamais que de fausses tristesses ou de fausses joies. Quand je vois le Mogol, qui toutes les années va sottement se mettre dans une balance et se faire peser comme un bœuf, quand je vois les peuples se réjouir de ce que ce prince est devenu plus matériel, c'est-à-dire moins capable de les gouverner, j'ai pitié, Ibn, de l'extravagance humaine. De Paris, le 20 de la lune de Régeb, 1713. Lettre 41. Le premier eunuque noir à Usbek. Ismaël, un de tes eunuques noirs, vient de mourir, magnifique seigneur, et je ne puis m'empêcher de le remplacer. Comme les eunuques sont extrêmement rares à présent, j'avais pensé de me servir d'un esclave noir que tu as à la campagne, mais je n'ai pu jusqu'ici le porter à souffrir qu'on le consacrât à cet emploi. Comme je vois qu'au bout du compte c'est son avantage, je voulus l'autre jour user à son égard d'un peu de rigueur, et, de concert avec l'intendant de tes jardins, j'ordonnais que, malgré lui, on le mît en état de te rendre les services qui flattent le plus ton cœur, et de vivre comme moi dans ces redoutables lieux qu'il n'ose pas même regarder. Mais il se mit à hurler comme si on avait voulu l'écorcher, et il fit tant qu'il échappa de nos mains et évita le fatal couteau. Je viens d'apprendre qu'il veut t'écrire pour te demander grâce, soutenant que je n'ai conçu ce dessein que par un désir insatiable de vengeance sur certaines railleries piquantes qu'il dit avoir faites de moi. Cependant, je te jure, par les 100 000 prophètes, que je n'ai agi que pour le bien de ton service, la seule chose qui me soit chère, et hors laquelle je ne regarde rien. Je me prosterne à tes pieds. Du sérail de Fatmé, le 7 de la lune de Maharram, 1713. Lettre 42. Pharan à Usbek, son souverain seigneur. Si tu étais ici, magnifique seigneur, je paraîtrais à ta vue tout couvert de papier blanc, et il n'y en aurait pas assez pour écrire toutes les insultes que ton premier eunuque noir, le plus méchant de tous les hommes, m'a faites depuis ton départ. Sous prétexte de quelques railleries qu'il prétend que j'ai faites sur le malheur de sa condition, il exerce sur ma tête une vengeance inépuisable. Il a animé contre moi le cruel intendant de tes jardins, qui, depuis ton départ, m'oblige à des travaux insurmontables, dans lesquels j'ai pensé 1000 fois laisser la vie, sans perdre un moment l'ardeur de te servir. Combien de fois ai-je dit en moi-même « J'ai un maître rempli de douceur et je suis le plus malheureux esclave qui soit sur la terre. » Je te l'avoue, magnifique seigneur, je ne me croyais pas destiné à de plus grandes misères. Mais ce traître d'eunuque a voulu mettre le comble à sa méchanceté. Il y a quelques jours que, de son autorité privée, il me destina à la garde de tes femmes sacrées, c'est-à-dire à une exécution qui serait pour moi 1000 fois plus cruelle que la mort. Ceux qui, en naissant, ont eu le malheur de recevoir de leurs cruels parents un traitement pareil, se consolent peut-être sur ce qu'ils n'ont jamais connu d'autre état que le leur. Mais qu'on me fasse descendre de l'humanité et qu'on m'en prive, je mourrai de douleur si je ne mourrai pas de cette barbarie. J'embrasse tes pieds, sublime Seigneur, dans une humilité profonde. Fais en sorte que je sente les effets de cette vertu si respectée, et qu'il ne soit pas dit que par ton ordre il y ait sur la terre un malheureux de plus. Des jardins de Fatmé, le 7 de la lune de Maharram, 1713. Lettre 43. Usbek à Pharan, au jardin de Fatmé. Recevez la joie dans votre cœur et reconnaissez ses sacrés caractères. Faites-les baiser au grand eunuque et à l'intendant de mes jardins. Je leur défends de rien entreprendre contre vous jusqu'à mon retour. Dites-leur d'acheter l'eunuque qui manque. Acquittez-vous de votre devoir comme si vous m'aviez toujours devant les yeux. Car sachez que plus mes bontés sont grandes, plus vous serez punis si vous en abusez. De Paris, le 25 de la lune de Régeb, 1713. Lettre 44. Usbek à Rédi, à Venise. Il y a en France 3 sortes d'États, l'Église, l'épée et la robe. Chacun a un mépris souverain pour les 2 autres, tel par exemple que l'on devrait mépriser parce qu'il est un sot, ne l'est souvent que parce qu'il est homme de robe. Il n'y a pas jusqu'aux plus vils artisans qui ne disputent sur l'excellence de l'art qu'ils ont choisi. Chacun s'élève au-dessus de celui qui est d'une profession différente, à proportion de l'idée qu'il s'est faite de la supériorité de la sienne. Les hommes ressemblent tous, plus ou moins, à cette femme de la province des Rivants, qui, ayant reçu quelque grâce d'un de nos monarques, lui souhaita 1000 fois dans les bénédictions qu'elle lui donna, que le ciel le fit gouverneur des Rivants. J'ai lu dans une relation qu'un vaisseau français ayant relâché à la côte de Guinée, quelques hommes de l'équipage voulurent aller à terre acheter quelques moutons. On les mena au roi, qui rendait la justice à ses sujets sous un arbre. Il était sur son trône, c'est-à-dire sur un morceau de bois, aussi fier que s'il eût été sur celui du grand Mogol. Il avait 3 ou 4 gardes avec des pics de bois. Un parasol en forme de dais le couvrait de l'ardeur du soleil. Tous ses ornements et ceux de la reine, sa femme, consistaient en leur peau noire et quelques bagues. Ce prince, plus vain encore que misérable, demanda à ses étrangers si on parlait beaucoup de lui en France. Il croyait que son nom devait être porté d'un pôle à l'autre. Et à la différence de ce conquérant de qui on a dit qu'il avait fait taire toute la terre, il croyait, lui, qu'il devait faire parler tout l'univers. Quand le camp de Tartarie a dîné, un héros crie que tous les princes de la terre peuvent aller dîner, si bon leur semble. Et ce barbare, qui ne mange que du lait, qui n'a pas de maison, qui ne vit que de brigandage, regarde tous les rois du monde comme ses esclaves et les insulte régulièrement 2 fois par jour. De Paris, le 28 de la lune de Régeb, 1713. Lettre 45. Rika à Usbek, à... Hier matin, comme j'étais au lit, j'entendis frapper rudement à ma porte, qui fut soudain ouverte ou enfoncée par un homme avec qui j'avais lié quelques sociétés et qui me parut tout hors de lui-même. Son habillement était beaucoup plus que modeste. Sa perruque de travers n'avait pas même été peignée. Il n'avait pas eu le temps de faire recoudre son pourpoint noir et il avait renoncé pour ce jour-là aux sages précautions avec lesquelles il avait coutume de déguiser le délabrement de son équipage. « Levez-vous, me dit-il. J'ai besoin de vous tout aujourd'hui. J'ai 1000 emplettes à faire et je serai bien aise que ce soit avec vous. Il faut premièrement que nous allions à la rue Saint-Honoré parler à un notaire qui est chargé de vendre une terre de 500 000 livres. Je veux qu'il m'en donne la préférence. En venant ici, je me suis arrêté un moment au faubourg Saint-Germain où j'ai loué un hôtel 2000 écus et j'espère passer le contrat aujourd'hui. » Dès que je fus habillé, ou peu s'en fallait, mon homme me fit précipitamment descendre. « Commençons, dit-il, par acheter un carrosse, et établissons l'équipage. » En effet, nous achetâmes non seulement un carrosse, mais encore pour 100 000 francs de marchandises en moins d'une heure. Tout cela se fit promptement parce que mon homme ne marchanda rien et ne compta jamais. Aussi ne déplaça-t-il pas. Je rêvais sur tout ceci, et quand j'examinais cet homme, je trouvais en lui une complication singulière de richesse et de pauvreté, de manière que je ne savais que croire. Mais enfin, je rompis le silence, et le tirant à part, je lui dis « Monsieur, qui est-ce qui payera tout cela ?»« Moi, dit-il, venez dans ma chambre, je vous montrerai des trésors immenses et des richesses enviées des plus grands monarques. » Mais elles ne le seront pas de vous, qui les partagerez toujours avec moi. » Je le suis. Nous grimpons à son 5e étage, et par une échelle, nous nous guindons à un 6e, qui était un cabinet ouvert aux 4 vents, dans lequel il n'y avait que 2 ou 3 douzaines de bassins de terre remplis de diverses liqueurs. « Je me suis levé de grand matin, me dit-il, et j'ai fait d'abord ce que je fais depuis 25 ans. Qui est d'aller visiter mon œuvre. J'ai vu que le grand jour était venu, qui devait me rendre plus riche comme qui soit sur la terre. Voyez-vous cette liqueur vermeille? Elle a à présent toutes les qualités que les philosophes demandent pour faire la transmutation des métaux. J'en ai tiré ces grains que vous voyez, qui sont de vrai or par leur couleur, quoiqu'un peu imparfait par leur pesanteur. Ce secret que Nicolas Flamel trouva, mais que Raymond Lulle et 1 million d'autres cherchèrent toujours, est venu jusque à moi, et je me trouve aujourd'hui un heureux adepte. Fasse le ciel que je ne me serve de tant de trésors qu'il m'a communiqués que pour sa gloire. Je sortis, et je descendis, ou plutôt je me précipitai par cet escalier, transporté de colère, et laissai cet homme si riche dans son hôpital. « Adieu, mon cher Usbek, j'irai te voir demain, et si tu veux, nous reviendrons ensemble à Paris. » De Paris, le dernier de la lune de Régeb, 1713. Lettre 46. Usbek à Redi, à Venise. Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion. Mais il me semble qu'ils combattent en même temps à qui l'observera le moins. Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même meilleurs citoyens, et c'est ce qui me touche. Car dans quelque religion qu'on vive, l'observation des lois, l'amour pour les hommes, la piété envers les parents sont toujours les premiers actes de religion. En effet, le premier objet d'un homme religieux ne doit-il pas être de plaire à la divinité qui a établi la religion qu'il professe? Mais le moyen le plus sûr pour y parvenir est sans doute d'observer les règles de la société et les devoirs de l'humanité. Car en quelque religion qu'on vive, dès qu'on en suppose une, il faut bien que l'on suppose aussi que Dieu aime les hommes, puisqu'il établit une religion pour les rendre heureux. Que s'il aime les hommes, on est assuré de lui plaire en les aimant aussi, c'est-à-dire en exerçant envers eux tous les devoirs de la charité et de l'humanité, et en ne violant point les lois sous lesquelles ils vivent. Par là, on est bien plus sûr de plaire à Dieu qu'en observant telle ou telle cérémonie, car les cérémonies n'ont point un degré de bonté par elles-mêmes. Elles ne sont bonnes qu'avec égard et dans la supposition que Dieu les a commandées. Mais c'est la matière d'une grande discussion. On peut facilement s'y tromper, car il faut choisir les cérémonies d'une religion entre celles de 2000. Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière. « Seigneur, je n'entends rien dans les disputes que l'on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais vous servir selon votre volonté. Mais chaque homme que je consulte veut que je vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière, je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle posture je dois me mettre. L'un dit que je dois vous prier debout, l'autre veut que je sois assis, l'autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est pas tout. Il y en a qui prétendent que je dois me laver tous les matins avec de l'eau froide. D'autres soutiennent que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper un petit morceau de chair. Il m'arriva l'autre jour de manger un lapin dans un caravansérail. Trois hommes qui étaient auprès de là me firent trembler. Ils me soutinrent tous trois que je vous avais grièvement offensé. L'un parce que cet animal était immonde, l'autre parce qu'il était étouffé, l'autre enfin parce qu'il n'était pas poisson. Un brachman qui passait par là et que je pris pour juge me dit « Ils ont tort, car apparemment vous n'avez pas tué vous-même cet animal. »« Si fait, lui dis-je. »« Ah, vous avez commis une action abominable et que Dieu ne vous pardonnera jamais, » me dit-il d'une voix sévère. « Que savez-vous si l'âme de votre père n'était pas passée dans cette bête ?»« Toutes ces choses, Seigneur, me jettent dans un embarras inconcevable. » Je ne puis remuer la tête que je ne sois menacée de vous offenser. Cependant, je voudrais vous plaire et employer à cela la vie que je tiens de vous. Je ne sais si je me trompe, mais je crois que le meilleur moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où vous m'avez fait naître et en bon père dans la famille que vous m'avez donnée. De Paris, le 8 de la lune de Chaban 1713. Lettre 47. Zaki à Usbek, à Paris. J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Je me suis réconcilié avec Zéphis. Le sérail, partagé entre nous, s'est réuni. Il ne manque que toi dans ces lieux où la paix règne. Viens, mon cher Usbek, viens y faire triompher l'amour. Je donnais à Zéphis un grand festin où ta mère, tes femmes, et tes principales concubines furent invitées. Tes tantes et plusieurs de tes cousines s'y trouvèrent aussi. Elles étaient venues à cheval, couvertes du sombre nuage de leurs voiles et de leurs habits. Le lendemain, nous partîmes pour la campagne, où nous espérions être plus libres. Nous montâmes sur nos chameaux, et nous nous mîmes quatre dans chaque loge. Comme la partie avait été faite brusquement, nous n'eûmes pas le temps d'envoyer à la ronde annoncer le courouc. Mais le premier eunuque, toujours industrieux, prit une autre précaution, car il joignit à la toile qui nous empêchait d'être vus un rideau si épais que nous ne pouvions absolument voir personne. Quand nous fûmes arrivés à cette rivière qu'il faut traverser, chacune de nous se mit, selon la coutume, dans une boîte et se fit porter dans le bateau, car on nous dit que la rivière était pleine de monde. Un curieux, qui s'approcha trop près du lieu où nous étions enfermés, reçut un coup mortel qui lui ôta pour jamais la lumière du jour. Un autre, qu'on trouva se baignant tout nu sur le rivage, eut le même sort. Et tes fidèles eunuques sacrifièrent à ton honneur et au nôtre ces deux infortunés. Mais écoute le reste de nos aventures. Quand nous fûmes au milieu du fleuve, un vent si impétueux s'éleva, et un nuage si affreux couvrit les airs, que nos matelots commencèrent à désespérer. Effrayés de ce péril, nous nous évanouîmes presque toutes. Je me souviens que j'entendis la voix et la dispute de nos eunuques, dont les uns disaient qu'il fallait nous avertir du péril et nous tirer de notre prison, mais leur chef soutint toujours qu'il mourrait plutôt que de souffrir que son maître fût ainsi déshonoré, et qu'il enfoncerait un poignard dans le sein de celui qui ferait des propositions si hardies. Une de mes esclaves, toute hors d'elle, courut vers moi déshabillée pour me secourir, mais un eunuque noir la prit brutalement et la fit rentrer dans l'endroit d'où elle était sortie. Pour lors, je m'évanouis, et ne revins à moi qu'après que le péril fut passé. Que les voyages sont embarrassants pour les femmes! Les hommes ne sont exposés qu'aux dangers qui menacent leur vie, et nous sommes, à tous les instants, dans la crainte de perdre notre vie ou notre vertu. Adieu, mon cher Usbek, je t'adorerai toujours. Du sérail de Fatmé, le 2 de la lune de Ramazan, 1713. Lettre 48. Usbek à Redi, à Venise. Ceux qui aiment à s'instruire ne seront jamais oisifs. Quoique je ne sois chargé d'aucune affaire importante, je suis cependant dans une occupation continuelle. Je passe ma vie à examiner. J'écris le soir ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu dans la journée. Tout m'intéresse, tout m'étonne. Je suis comme un enfant dont les organes encore tendres sont vivement frappés par les moindres objets. Tu ne le croirais pas, peut-être. Nous sommes reçus agréablement dans toutes les compagnies et dans toutes les sociétés. Je crois devoir beaucoup à l'esprit vif et à la gaieté naturelle de Rika, qui fait qu'il recherche tout le monde et qu'il en est également recherché. Notre air étranger n'offense plus personne. Nous jouissons même de la surprise où l'on est de nous trouver quelque politesse. Car les Français n'imaginent pas que notre climat produise des hommes. Cependant, il faut l'avouer, ils valent la peine qu'on les détrompe. J'ai passé quelques jours dans une maison de campagne auprès de Paris, chez un homme de considération, qui est ravi d'avoir de la compagnie chez lui. Il a une femme fort aimable, et qui jointe à une grande modestie, une gaieté que la vie retirée ôte toujours à nos dames de Perse. Étranger que j'étais, je n'avais rien de mieux à faire que d'étudier cette foule de gens qui y abordaient sans cesse, et qui me présentaient toujours quelque chose de nouveau. Je remarquai d'abord un homme dont la simplicité me plut. Je m'attachai à lui, il s'attacha à moi, de sorte que nous nous trouvions toujours l'un auprès de l'autre. Un jour, que, dans un grand cercle, nous nous entretenions en particulier, laissant les conversations générales à elles-mêmes. « Vous trouverez peut-être en moi, lui dis-je, plus de curiosité que de politesse, mais je vous supplie d'agréer que je vous fasse quelques questions, car je m'ennuie de n'être au fait de rien et de vivre avec des gens que je ne saurais démêler. Mon esprit travaille depuis 2 jours. Il n'y a pas un seul de ces hommes qui ne m'ait donné 200 fois la torture, et je ne les devinerai de 1000 ans. Ils me sont plus invisibles que les femmes de notre grand monarque. « Vous n'avez qu'à dire, me répondit-il, et je vous instruirai de tout ce que vous souhaiterez. D'autant mieux que je vous crois homme discret et que vous n'abuserez pas de ma confiance. « Qui est cet homme, lui dis-je, qui nous a tant parlé des repas qu'il a donnés aux grands, qui est si familier avec vos ducs et qui parle si souvent à vos ministres, qu'on me dit d'être d'un accès si difficile. Il faut bien que ce soit un homme de qualité, mais il a la physionomie si basse qu'il ne fait guère honneur aux gens de qualité. Et d'ailleurs, je ne lui trouve point d'éducation. Je suis étranger, mais il me semble qu'il y a en général une certaine politesse commune à toutes les nations. Je ne lui trouve point de celle-là. Est-ce que vos gens de qualité sont plus mal élevés que les autres ?
Cet homme, me répondit-il en riant, est un fermier. Il est autant au-dessus des autres par ses richesses qu'il est au-dessous de tout le monde par sa naissance. Il aurait la meilleure table de Paris s'il pouvait se résoudre à ne manger jamais chez lui. Il est bien impertinent, comme vous le voyez, mais il excelle par son cuisinier. Aussi n'en est-il pas ingrat, car vous avez entendu qu'il l'a loué tout aujourd'hui.
Et ce gros homme, vêtu de noir, lui dis-je, que cette dame a fait placer auprès d'elle, comment a-t-il un habit si lugubre, avec un air si gai et un teint si fleuri? Il sourit gracieusement dès qu'on lui parle. Sa parure est plus modeste, mais plus arrangée que celle de vos femmes.
C'est, me répondit-il, un prédicateur, et qui pisait un directeur. Tel que vous le voyez, il en sait plus que les maris. Il connaît le faible des femmes. Elles savent aussi qu'il a le sien.
Comment ? Dis-je. Il parle toujours de quelque chose qu'il appelle la grâce.
Non, pas toujours, me répondit-il. À l'oreille d'une jolie femme, il parle encore plus volontiers de sa chute. Il foudroie en public, mais il est doux comme un agneau en particulier.
Il me semble, dis-je, qu'on le distingue beaucoup et qu'on a de grands égards pour lui.
Comment, si on le distingue, c'est un homme nécessaire. Il fait la douceur de la vie retirée. Petits conseils, soins officieux, visites marquées. Il dissipe pas mal de têtes, mieux comme du monde. Il est excellent.
Mais si je ne vous importune pas, dites-moi qui est celui qui est vis-à-vis de nous, qui est si mal habillé, qui fait quelquefois des grimaces et a un langage différent des autres, qui n'a pas d'esprit pour parler, mais qui parle pour avoir de l'esprit.
C'est, me répondit-il, un poète, et le grotesque du genre humain. Ces gens-là disent qu'ils sont nés ce qu'ils sont, cela est vrai, et aussi ce qu'ils seront toute leur vie, c'est-à-dire presque toujours les plus ridicules de tous les hommes. Aussi ne les épargne-t-on point. On verse sur eux le mépris à pleine main. La famine a fait entrer celui-ci dans cette maison, et il y est bien reçu du maître et de la maîtresse, dont la bonté et la politesse ne se démentent à l'égard de personne. Il fit leur épithalame lorsqu'ils se marièrent, c'est ce qu'il a fait de mieux en sa vie, car il s'est trouvé que le mariage a été aussi heureux qu'il l'a prédit. « Vous ne le croiriez pas, peut-être, » ajouta-t-il, « entêté comme vous l'êtes des préjugés de l'Orient. Il y a parmi nous des mariages heureux, et des femmes dont la vertu est un gardien sévère. Les gens dont nous parlons goûtent entre eux une paix qui ne peut être troublée. Ils sont aimés et estimés de tout le monde. Il n'y a qu'une chose, c'est que leur bonté naturelle leur fait recevoir chez eux toutes sortes de monde, ce qui fait qu'ils ont quelquefois mauvaise compagnie. Ce n'est pas que je les désapprouve. Il faut vivre avec les hommes tels qu'ils sont. Les gens qu'on dit être de si bonne compagnie ne sont souvent que ceux dont les vices sont plus raffinés. Et peut-être en est-il comme des poisons, dont les plus subtils sont aussi les plus dangereux.
Et ce vieux homme, lui dis-je tout bas, qui a l'air si chagrin, je l'ai pris d'abord pour un étranger, car outre qu'il est habillé autrement que les autres, censure tout ce qui se fait en France et n'approuve pas votre gouvernement.
« C'est un vieux guerrier, me dit-il, qui se rend mémorable à tous ses auditeurs par la longueur de ses exploits. Il ne peut souffrir que la France ait gagné des batailles où il ne se soit pas trouvé, ou qu'on vante un siège où il n'est pas monté à la tranchée.
Il se croit si nécessaire à notre histoire qu'il s'imagine qu'elle finit ou il a fini. Il regarde quelques blessures qu'il a reçues comme la dissolution de la monarchie. Et à la différence de ces philosophes qui disent qu'on ne jouit que de présent et que le passé n'est rien, il ne jouit au contraire que du passé et n'existe que dans les campagnes qu'il a faites. Il respire dans les temps qui se sont écoulés, comme les héros doivent vivre dans ceux qui passeront après eux.
Mais pourquoi, dis-je, a-t-il quitté le service?
Il ne l'a point quitté, me répondit-il, mais le service l'a quitté. On l'a employé dans une petite place où il racontera ses aventures le reste de ses jours, mais il n'ira jamais plus loin. Le chemin des honneurs lui est fermé.
Et pourquoi? Lui dis-je.
Nous avons une maxime en France, me répondit-il. C'est de n'élever jamais les officiers dont la patience a langui dans des emplois subalternes. Nous les regardons comme des gens dont l'esprit s'est rétréci dans les détails et qui, par l'habitude des petites choses, sont devenus incapables des plus grandes. Nous croyons qu'un homme qui n'a pas les qualités d'un général à 30 ans ne les aura jamais, que celui qui n'a pas ce coup d'œil qui montre tout d'un coup un terrain de plusieurs lieues dans toutes ces situations différentes, cette présence d'esprit qui fait que dans une victoire on se sert de tous ses avantages et dans un échec de toutes ses ressources, n'acquerra jamais ses talents. C'est pour cela que nous avons des emplois brillants pour ces hommes grands et sublimes que le ciel a partagés non seulement d'un cœur, mais aussi d'un génie héroïque, et des emplois subalternes pour ceux dont les talents le sont aussi. De ce nombre sont ces gens qui ont vieilli dans une guerre obscure. Ils ne réussissent tout au plus qu'à faire ce qu'ils ont fait toute leur vie, et il ne faut point commencer à les charger dans le temps qu'ils s'affaiblissent. Un moment après, la curiosité me reprit et je lui dis « Je m'engage à ne vous plus faire de questions si vous voulez encore souffrir celle-ci. Qui est ce grand jeune homme qui a des cheveux, peu d'esprit et tant d'impertinence? D'où vient qu'il parle plus haut que les autres et se sait si bon gré d'être au monde ?»«
C'est un homme à bonne fortune, » me répondit-il.
À ces mots, des gens entrèrent, d'autres sortirent, on se leva. Quelqu'un vint parler à mon gentilhomme, et je restai aussi peu instruit qu'auparavant. Mais un moment après, je ne sais par quel hasard, ce jeune homme se trouva auprès de moi, et m'adressant la parole, « Il fait beau, voudriez-vous, monsieur, faire un tour dans le parterre ?» Je lui répondis le plus civilement qu'il me fut possible, et nous sortîmes ensemble. « Je suis venu à la campagne, » me dit-il, « pour faire plaisir à la maîtresse de maison avec laquelle je ne suis pas mal. Il y a bien certaines femmes dans le monde qui ne sera pas de bonne humeur, mais qu'y faire? Je vois les plus jolies femmes de Paris, mais je ne me fixe pas à une, et je leur en donne bien à garder, car, entre vous et moi, je ne vaux pas grand-chose.
« Apparemment, monsieur, lui dis-je, que vous avez quelque charge ou quelque emploi qui vous empêche d'être plus assidu auprès d'elle.
Non, monsieur, je n'ai d'autre emploi que de faire enrager un mari ou désespérer un père. J'aime à alarmer une femme qui croit me tenir et la mettre à deux doigts de ma perte. Nous sommes quelques jeunes gens qui partageons ainsi tout Paris et l'intéressons à nos moindres démarches.
À ce que je comprends, lui dis-je, vous faites plus de bruit que le guerrier le plus valeureux, et vous êtes plus considéré qu'un grave magistrat. Si vous étiez en Perse, vous ne jouiriez pas de tous ces avantages. Vous deviendriez plus propre à garder nos dames qu'à leur plaire. »
Le feu me monta au visage, et je crois que pour peu que j'eusse parlé, je n'aurais pu m'empêcher de le brusquer.
« Que dis-tu d'un pays où l'on tolère de pareils gens ? Et où l'on laisse vivre un homme qui fait un tel métier, où l'infidélité, la trahison, le rapt, la perfidie et l'injustice conduisent à la considération, où l'on estime un homme parce qu'il ôte une fille à son père, une femme à son mari, et trouble les sociétés les plus douces et les plus saintes.
Heureux les enfants d'Ali, qui défendent leur famille de l'opprobre et de la séduction. La lumière du jour n'est pas plus pure que le feu qui brûle dans le cœur de nos femmes. Nos filles ne pensent qu'en tremblant au jour qui doit les priver de cette vertu qui les rend semblables aux anges et aux puissances incorporelles. Terre natale et chérie, sur qui le soleil jette ses premiers regards, tu n'es point souillée par les crimes horribles qui obligent cet astre à se cacher dès qu'il paraît dans le noir occident. De Paris, le 5 de la lune de Ramazan, 1713. Lettre 49. Rika à Usbek, à Étant l'autre jour dans ma chambre, je vis entrer un dervis extraordinairement habillé. Sa barbe descendait jusqu'à sa ceinture de corde. Il avait les pieds nus, son habit était gris, grossier, et en quelques endroits, pointu. Le tout me parut si bizarre que ma première idée fut d'envoyer chercher un peintre pour en faire une fantaisie. Il me fit d'abord un grand compliment, dans lequel il m'apprit qu'il était homme de mérite, et de plus, capucin. « On m'a dit, ajouta-t-il, monsieur, que vous retournez bientôt à la cour de Perse, où vous tenez un rang distingué. Je viens vous demander votre protection, et vous prier de nous obtenir du roi une petite habitation auprès de Casbin pour deux ou trois religieux. « Mon père, lui dis-je, vous voulez donc aller en Perse ?»« Non, monsieur, me dit-il, je m'en donnerai bien de garde. Je suis ici provincial, et je ne troquerai pas ma condition contre celle de tous les capucins du monde. » « Et que diable me demandez-vous donc ?»« C'est, me répondit-il, que si nous avions cet hospice, nos pères d'Italie y enverraient deux ou trois de leurs religieux. » « Vous les connaissez apparemment, lui dis-je, ces religieux. »« Non, monsieur, je ne les connais pas. »« Eh, morbleu, que vous importe donc qu'ils aillent en Perse ? C'est un beau projet de faire respirer l'air de Casbin à deux capucins. Cela sera très utile et à l'Europe et à l'Asie. Il est fort nécessaire d'intéresser là-dedans les monarques. Voilà ce qui s'appelle de belles colonies. Allez !» Vous et vos semblables n'êtes point faits pour être transplantés, et vous ferez bien de continuer à ramper dans les endroits où vous êtes engendrés. De Paris, le 15 de la lune du Ramazan, 1713. Lettre 50. Rika à J'ai vu des gens chez qui la vertu était si naturelle qu'elle ne se faisait pas même sentir. Ils s'attachaient à leurs devoirs sans s'y plier, et s'y portaient comme par instinct. Bien loin de relever par leurs discours leur rare qualité, il semblait qu'elle n'avait pas percé jusqu'à eux. Voilà les gens que j'aime. Non pas ces hommes vertueux qui semblent être étonnés de l'être et qui regardent une bonne action comme un prodige dont le récit doit surprendre. Si la modestie est une vertu nécessaire à ceux à qui le ciel a donné de grands talents, que peut-on dire de ces insectes qui osent faire paraître un orgueil qui déshonorerait les plus grands hommes ? Je vois de tous côtés des gens qui parlent sans cesse d'eux-mêmes. Leurs conversations sont un miroir qui présente toujours leur impertinente figure. Ils vous parleront des moindres choses qui leur sont arrivées, et ils veulent que l'intérêt qu'ils y prennent les grossisse à vos yeux. Ils ont tout fait, tout vu, tout dit, tout pensé. Ils sont un modèle universel, un sujet de comparaison inépuisable, une source d'exemple qui ne tarit jamais. Oh, que la louange est fade lorsqu'elle réfléchit vers le lieu d'où elle part. Il y a quelques jours qu'un homme de ce caractère nous accabla pendant 2 heures de lui, de son mérite et de ses talents. Mais comme il n'y a point de mouvement perpétuel dans le monde, il cessa de parler. La conversation nous revint donc, et nous la prîmes. Un homme qui paraissait assez chagrin commença par se plaindre de l'ennui répandu dans les conversations. « Quoi, toujours des sots qui se peignent eux-mêmes et qui ramènent tout à eux !»« Vous avez raison, » reprit brusquement notre discoureur. « Il n'y a qu'à faire comme moi. »
je ne me loue jamais. J'ai du bien, de la naissance, je fais de la dépense, mes amis disent que j'ai quelque esprit, mais je ne parle jamais de tout cela. Si j'ai quelque bonne qualité, celle dont je fais le plus de cas, c'est ma modestie. » J'admirais cet impertinent, et pendant qu'il parlait tout haut, je disais tout bas, « Heureux celui qui a assez de vanité pour ne dire jamais le bien de lui, qui craint ce qu'il écoute et ne compromet point son mérite avec l'orgueil des autres. » De Paris, le 20 de la lune de Ramazan, 1713. Lettre 51. Nargum, envoyé de Perse en Moscovie, à Usbek, à Paris. On m'a écrit d'Ispahan que tu avais quitté la Perse et que tu étais actuellement à Paris. Pourquoi faut-il que j'apprenne de tes nouvelles par d'autres que par toi? Les ordres du roi des rois me retiennent depuis 5 ans dans ce pays-ci, où j'ai terminé plusieurs négociations importantes. Tu sais que le Tsar est le seul des princes chrétiens dont les intérêts soient mêlés avec ceux de la Perse, parce qu'il est ennemi des Turcs, comme nous. Son empire est plus grand que le nôtre, car on compte 1000 lieues depuis Moscou jusqu'à la dernière place de ses états du côté de la Chine. Il est le maître absolu de la vie et des biens de ses sujets, qui sont tous esclaves, à la réserve de 4 familles. Le lieutenant des prophètes, le roi des rois, qui a le ciel pour marchepied, ne fait pas un exercice plus redoutable de sa puissance. À voir le climat affreux de la Moscovie, on ne croirait jamais que ce fût une peine d'en être exilé. Cependant, dès qu'un grand est disgracié, on le relègue en Sibérie. Comme la loi de notre prophète nous défend de boire du vin, celle du prince le défend aux moscovites. Ils ont une manière de recevoir leurs hôtes qui n'est point du tout persane. Dès qu'un étranger entre dans une maison, le mari lui présente sa femme. L'étranger la baise, et cela passe pour une politesse faite au mari. Quoique les pères, au contrat de mariage de leur fille, stipulent ordinairement que le mari ne les fouettera pas, cependant on ne saurait croire combien les femmes moscovites aiment à être battues. Elles ne peuvent comprendre qu'elles possèdent le cœur de leur mari s'il ne les bat comme il faut. Une conduite opposée de sa part est une marque d'indifférence impardonnable. Voici une lettre qu'une d'elles écrivit dernièrement à sa mère. « Ma chère mère, je suis la plus malheureuse femme du monde. Il n'y a rien que je n'ai fait pour me faire aimer de mon mari et je n'ai jamais pu y réussir. Hier, j'avais 1000 affaires dans la maison. Je sortis et je demeurai tout le jour dehors. Je crus à mon retour qu'il me battrait bien fort, mais il ne me dit pas un seul mot. Ma sœur est bien autrement traitée, son mari la bat tous les jours. Elle ne peut pas regarder un homme qu'il ne l'assomme soudain. Ils s'aiment beaucoup aussi, et ils vivent de la meilleure intelligence du monde. C'est ce qui la rend si fière. Mais je ne lui donnerai pas longtemps sujet de me mépriser. J'ai résolu de me faire aimer de mon mari, à quelque prix que ce soit. Je le ferai si bien enragé qu'il faudra bien qu'il me donne des marques d'amitié. Il ne sera pas dit que je ne serai pas battue, et que je vivrai dans la maison sans que l'on pense à moi. La moindre chiquenaude qu'il me donnera, je crierai de toute ma force, afin qu'on s'imagine qu'il y va tout de bon. Et je crois que si quelque voisin venait au secours, je l'étranglerai. Je vous supplie, ma chère mère, de vouloir bien représenter à mon mari qu'il me traite d'une manière indigne. Mon père, qui est un si honnête homme, n'agissait pas de même. Et il me souvient, lorsque j'étais petite fille, qu'il me semblait quelquefois qu'il vous aimait trop. Je vous embrasse, ma chère mère. » Les moscovites ne peuvent point sortir de l'Empire, fût-ce pour voyager. Ainsi, séparés des autres nations par les lois du pays, ils ont conservé leurs anciennes coutumes avec d'autant plus d'attachement qu'ils ne croyaient pas qu'il fût possible d'en avoir d'autres. Mais le prince qui règne à présent a voulu tout changer. Il a eu de grands démêlés avec eux au sujet de leur barbe. Le clergé et les moines n'ont pas moins combattu en faveur de leur ignorance.
Il s'attache à faire fleurir les arts et ne néglige rien pour porter dans l'Europe et l'Asie la gloire de sa nation, oubliée jusqu'ici et presque uniquement connue d'elle-même. Inquiet et sans cesse agité, il erre dans ses vastes états, laissant partout des marques de sa sévérité naturelle. Il les quitte comme s'il ne pouvait le contenir, et va chercher dans l'Europe d'autres provinces et de nouveaux royaumes. Je t'embrasse, mon cher Usbek. Donne-moi de tes nouvelles, je te conjure.
De Moscou, le 2 de la lune de Chaval, 1713. Lettre 52. Rika à Usbek à...
J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. Il y avait là des femmes de tous les âges, une de 80 ans, une de 60, une de 40, qui avait une nièce de 20 à 22 ans. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière, et elle me dit à l'oreille « Que dites-vous de ma tante, qui, à son âge, veut avoir des amants et fait encore la jolie ?»«
Elle a tort, lui dis-je. C'est un dessein qui ne convient qu'à vous. »
Un moment après, je me trouvai auprès de sa tante, qui me dit « Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins 60 ans, qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toilette ?»«
C'est du temps perdu, lui dis-je, et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. »
J'allai à cette malheureuse femme de 60 ans et la plaignais dans mon âme lorsqu'elle me dit à l'oreille « Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a 80 ans et qui met des rubans couleur de feu. Elle veut faire la jeune, et elle y réussit, car cela approche de l'enfance. »
« Ah, bon Dieu ! » dis-je en moi-même, « ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres ?»«
C'est peut-être un bonheur, disais-je ensuite, que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. » Cependant, j'étais en train de me divertir, et je dis
« Nous avons assez monté, descendons à présent, et commençons par la vieille qui est au sommet. »
« Madame, vous vous ressemblez si fort, cette dame à qui je viens de parler, et vous, qu'il me semble que vous soyez deux sœurs, et je vous crois à peu près de même âge. »«
Vraiment, monsieur, me dit-elle, lorsque l'une mourra, l'autre devra avoir grand-peur. Je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi 2 jours de différence. »
Quand je tins cette femme décrépite, j'allai à celle de 60 ans.
« Il faut, madame, que vous décidiez un pari que j'ai fait. J'ai gagé que cette dame et vous, lui montrant la femme de 40 ans, étiez de même âge. »
« Ma foi, dit-elle, je ne crois pas qu'il y ait 6 mois de différence. »
Bon, m'y voilà, continuons. Je descendis encore et j'allai à la femme de 40 ans. « Madame, faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle, qui est à l'autre table, votre nièce. Vous êtes aussi jeune qu'elle. Elle a même quelque chose dans le visage de passé que vous n'avez certainement pas, et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint...
« Attendez, me dit-elle, je suis sa tante, mais sa mère avait pour le moins 25 ans plus que moi. Nous n'étions pas de même lit. J'ai ouï dire à feu ma sœur que sa fille et moi naquîmes la même année. »
« Je le disais bien, madame, et je n'avais pas fort d'être étonnée. »
« Mon cher Usbek, les femmes qui se sentent finir d'avance par la perte de leurs agréments voudraient reculer vers la jeunesse. Mais comment ne chercheraient-elles pas à tromper les autres? Elles font tous leurs efforts pour se tromper elles-mêmes et se dérober à la plus affligeante de toutes les idées. »
De Paris, le 3 de la lune de Chalval, 1713. Lettre 53. Zélis à Usbek, à Paris.
Jamais passion n'a été plus forte et plus vive que celle de Khosrou, eunuque blanc, pour mon esclave Zélide. Il la demande en mariage avec tant de fureur que je ne puis la lui refuser. Et pourquoi ferais-je de la résistance lorsque ma mère n'en fait pas? et que Zélide elle-même paraît satisfaite de l'idée de ce mariage imposteur et de l'ombre vaine qu'on lui présente. Que veut-elle faire de cette infortunée qui n'aura d'un mari que la jalousie, qui ne sortira de sa froideur que pour entrer dans un désespoir inutile, qui se rappellera toujours la mémoire de ce qu'il a été pour la faire souvenir de ce qu'il n'est plus, qui, toujours prêt à se donner et ne se donnant jamais, se trompera, la trompera sans cesse, et lui fera essuyer à chaque instant tous les malheurs de sa condition. Et quoi ? Être toujours dans les images et dans les fantômes ? Ne vivre que pour imaginer ? Se trouver toujours auprès des plaisirs et jamais dans les plaisirs ? Languissante dans les bras d'un malheureux, au lieu de répondre à ses soupirs, ne répondre qu'à ses regrets ? Quel mépris ne doit-on pas avoir pour un homme de cette espèce, fait uniquement pour garder et jamais pour posséder ? Je cherche l'amour et je ne le vois pas. Je te parle librement, parce que tu aimes ma naïveté et que tu préfères mon air libre et ma sensibilité pour les plaisirs, à la pudeur feinte de mes compagnes. Je t'ai ouï dire mille fois que les eunuques goûtent avec les femmes une sorte de volupté qui nous est inconnue, que la nature se dédommage de ses pertes, qu'elle a des ressources qui réparent le désavantage de leurs conditions, qu'on peut bien cesser d'être homme, mais non pas d'être sensible, et que dans cet état, on est comme dans un troisième sens, où l'on ne fait, pour ainsi dire, que changer de plaisir. Si cela était, je trouverais Zélide moins à plaindre. C'est quelque chose de vivre avec des gens moins malheureux. Donne-moi tes ordres là-dessus, et fais-moi savoir si tu veux que le mariage s'accomplisse dans le sérail. Adieu. Du sérail d'Ispahan, le 5 de la lune de Chalval, 1713. Lettre 54. Rika à Usbek, A. J'étais ce matin dans ma chambre, qui, comme tu sais, n'est séparée des autres que par une cloison fort mince et percée en plusieurs endroits, de sorte qu'on entend tout ce qui se dit dans la chambre voisine. Un homme, qui se promenait à grands pas, disait à un autre. « Je ne sais ce que c'est, mais tout tourne contre moi. Il y a plus de 3 jours que je n'ai rien dit qui m'ait fait honneur, et je me suis trouvé confondu pêle-mêle dans toutes les conversations, sans qu'on ait fait la moindre attention à moi, et qu'on m'ait 2 fois adressé la parole. J'avais préparé quelques saillies pour relever mon discours. Jamais on n'a voulu souffrir que je les fisse venir. J'avais un conte fort joli à faire, mais à mesure que j'ai voulu l'approcher, on l'a esquivé, comme si on l'avait fait exprès. J'ai quelques bons mots qui, depuis 4 jours, vieillissent dans ma tête sans que j'en aie pu faire le moindre usage. Si cela continue, je crois qu'à la fin, je serai un sot. Il semble que ce soit mon étoile et que je ne puisse m'en dispenser. Hier, j'avais espéré de briller avec 3 ou 4 vieilles femmes, qui certainement ne m'en imposent point, et je devais dire les plus jolies choses du monde. Je fus plus d'un quart d'heure à diriger ma conversation, mais elles ne tinrent jamais un propos suivi, et elles coupèrent, comme des parques fatales, le fil de tous mes discours. Veux-tu que je te dise ? La réputation de bel esprit coûte bien à soutenir. Je ne sais comment tu as fait pour y parvenir. » « Il me vient une pensée, » reprit l'autre. « Travaillons de concert à nous donner de l'esprit. Associons-nous pour cela. Chaque jour, nous nous dirons de quoi nous devons parler, et nous nous secourrons, si bien que, si quelqu'un vient nous interrompre au milieu de nos idées, nous la tirerons nous-mêmes. Et s'il ne veut pas venir de bon gré, nous lui ferons violence. Nous conviendrons des endroits où il faudra approuver, de ceux où il faudra sourire, des autres où il faudra rire tout à fait et à gorge déployée. Tu verras que nous donnerons le ton à toutes les conversations et qu'on admirera la vivacité de notre esprit et le bonheur de nos réparties. Nous nous protégerons par des signes de tête mutuels. Tu brilleras aujourd'hui, demain tu seras mon second. J'entrerai avec toi dans une maison et je m'écrierai en te montrant « Il faut que je vous dise une réponse bien plaisante que monsieur vient de faire à un homme que nous avons trouvé dans la rue. » Et je me tournerai vers toi.
Il ne s'y attendait pas, il a été bien étonné. Je réciterai quelques-uns de mes vers et tu diras « J'y étais quand il les fit, c'était dans un souper, et il ne rêva pas un moment. » Souvent même nous nous raillerons, toi et moi, et l'on dira « Voyez comme il s'attaque, comme il se défend, il ne s'épargne pas, voyons comment il sortira de là. » Ah, merveille, quelle présence d'esprit, voilà une véritable bataille. Mais on ne dira pas que nous nous étions escarmouchés la veille. Il faudra acheter de certains livres qui sont des recueils de bons mots composés à l'usage de ceux qui n'ont point d'esprit et qui en veulent contrefaire. Tout dépend d'avoir des modèles. Je veux qu'avant 6 mois, nous soyons en état de tenir une conversation d'une heure toute remplie de bons mots. Mais il faudra avoir une attention, c'est de soutenir leur fortune. Ce n'est pas assez de dire un bon mot. Il faut le répandre et le semer partout. Sans cela, autant de perdus. Et je t'avoue qu'il n'y a rien de si désolant que de voir une jolie chose qu'on a dite mourir dans l'oreille d'un sot qui l'entend. Il est vrai que souvent il y a une compensation, et que nous disons aussi bien des sottises qui passent incognito. Et c'est la seule chose qui peut nous consoler dans cette occasion. Voilà, mon cher, le parti qu'il nous faut prendre. Fais ce que je te dirai. Et je te promets avant 6 mois une place à l'académie. C'est pour te dire que le travail ne sera pas long, car pour lors, tu pourras renoncer à ton art. Tu seras homme d'esprit, malgré que tu en aies. On remarque en France que dès qu'un homme entre dans une compagnie, il prend d'abord ce qu'on appelle l'esprit du corps. Tu seras de même, et je ne crains pour toi que l'embarras des applaudissements. À Paris, le 6 de la lune de Zilkadé, 1714.